Archéologie naturelle par le père Philippe à Saint-Joseph le 29 mai 85.
Vous avez dit qu'on pouvait découvrir l'unité du monde physique dans le corps de l'homme grâce au regard qui, par l'intermédiaire de la lumière, fait l'unité entre le visible et l'invisible. L'unité du cosmos, la lumière. Le sommet et le lieu du cosmos, le corps humain, qui remplace, si vous voulez, la sphère d'Aristote. Et c'est très délicat, mais je crois qu'on ne peut pas dire autrement. Ne pourrait-on pas dire, de façon plus générale, que toutes les sensations, chacune dans son domaine propre, et dans la mesure où elles sont connaissances, font découvrir un aspect de cette unité. Ou bien, en effet, on parle bien, en effet, de fonction de l'intelligence. Non, c'est pas fonction, hein. Ça fait rien. Comme du regard intérieur d'intelligence. Du toucher d'intelligence comme du regard intérieur de l'intelligence. Oui, oui. Vision, toucher. Diversité, un ordre analogique. Oui, c'est un cas aussi très particulier pour trouver ce que c'est que l'analogie. Nous avons 5 connaissances sensibles, ou 6 selon les psychologues, peu importe, puisque le toucher est intérieur ou extérieur. En réalité, c'est le toucher. Qu'il soit intérieur ou extérieur, ça n'a pas d'importance, c'est le toucher, parce qu'il est toujours extérieur. Mais ça ne fait rien, on en a jamais. Alors, nous en avons 5. 5 sensations qui sont diverses et une. Mais c'est un cas merveilleux de l'analogie. Donc il y a un ordre, il y a une diversité. Quelle est la première sensation? Au point de vue perfection, la vision. Au point de vue fondement, d'ordre génétique, le toucher. Le toucher, c'est le sens du vivant. S'il n'y a plus de toucher, il n'y a plus de vivant. C'est extraordinaire, ça. Tandis qu'il peut, il peut très bien ne pas y avoir la vue et encore vivre, hein. La vision, c'est pas l'ordre de la nécessité, c'est l'ordre de la perfection. C'est la sensation la plus proche de l'imagination. Aristote avait souligné que le nom de l'imagination, fantasia, hein, est lié à la lumière. C'est très très curieux. Et par l'imagination à l'intelligence. Alors vous avez là une arête de perfection, ce qui fait que je ne dis pas que chaque sensation me donne l'unité de l'univers. Non, non, c'est la vision et c'est la lumière. Dans l'ordre de perfection, alors l'unité de l'univers. Mais évidemment, les autres qualités existent. L'univers a toutes les qualités. Il y a les 4 éléments, ou les 5 éléments, puisqu'il y a 5 sens, hein. Là, si vous pouvez dire que d'une certaine manière, il y a cinq éléments, il faudrait découvrir quel est le cinquième, en reprenant la quintessence et en redonnant quelque chose de particulier qui serait reprendre la quintessence d'Aristote, qui serait intéressant. Il y a 4 éléments et 5 sens. Donc il doit y avoir quelque chose là qu'on n'a peut-être pas entièrement saisi. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ordre dans les 5 sensations. Et il y en a une première, selon l'ordre de perfection. Or, l'unité, c'est l'ordre de la perfection. L'unité fait la mesure. Qu'est-ce qui mesure notre univers? C'est la lumière. Notre univers physique. Qu'est-ce qui est le lieu, la mesure immanente de notre univers? Le corps le plus parfait, c'est le corps humain. Donc vous voyez la différence entre les deux. Alors, je suis d'accord qu'on peut dire que l'intelligence est un toucher, qu'on parle bien du toucher de l'intelligence. Pourquoi on parle du toucher de l'intelligence? C'est tout simplement à cause de ça. Vous avez 5 sensations. Il y avait une intelligence. Eh bien, les cinq sensations, vous voyez bien, analogiquement, comme ce qui en Dieu est un est multiple dans la créature, le nous est un, donc le nous c'est un toucher, l'intelligence c'est un toucher, c'est un goût, c'est un odorat, et c'est la vision et l'ouïe. L'intelligence, symboliquement, si vous me parlez symboliquement d'intelligence, symboliquement d'intelligence, vous pouvez prendre les cinq modalités. Les cinq modalités de la connaissance. Notre connaissance est d'abord une connaissance sensible. Et vous avez cinq modalités de connaissance sensible. Ces cinq modalités de connaissance sensible se ramènent à l'unité dans l'intelligence. Et donc chacune de ces modalités a quelque chose de parent avec le nous. Le toucher. Le toucher me fait toucher, me fait toucher ce qu'il y a de fondamental dans l'intelligence. L'intelligence touche. Jugement d'existence. Mais je m'en excuse du côté du toucher. Parce que par le toucher, je saisis l'autre. Je saisis beaucoup mieux l'autre par le toucher que par la vision. C'est pour ça que les hallucinations du toucher sont les plus terribles. Hein. Quand quelqu'un commence à avoir des hallucinations du côté du toucher, on est un peu effrayé. Les hallucinations de la vision, très bien, il y a beaucoup de vision. Alors, c'est la vision. Les hallucinations de l'ouïe, c'est un peu terrible, mais ça peut encore aller. C'est les plus terribles, c'est lorsqu'il s'agit du toucher. Et les hallucinations, ça provient de quoi? C'est l'imaginaire qui empêche la sensation de rejoindre nous. Et l'imaginaire risque d'être un mur. Et alors, quand l'imaginaire est un mur, notre intelligence n'est plus reliée au réel. Et vous commencez d'avoir des hallucinations. Parce que vous êtes trop tendu, parce que vous êtes trop poète, parce que vous êtes un peu drogué, parce que ainsi de suite. C'est ça le propre. Hein. C'est la drogue coupe et permet l'imaginaire d'être du mousseux, du champagne. Là, c'est ça, ça monte, hein. L'imaginaire monte. L'imaginaire, alors à la place de faire que la sensation est reliée au nous, oui, et toute la méthode vitose, c'est de relier les sensations au nous. Donc de percer le mur de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire peut devenir un mur terrible. Et à ce moment-là, le nous n'est plus en contact avec le réel. Et c'est l'imaginaire qui commence à nous donner des visions merveilleuses. Mais tout l'idéalisme naît de là. L'idéalisme, c'est l'imaginaire qui est un mur entre la sensation et le nous. C'est très curieux. Et c'est très intéressant de saisir ce point de vue-là. Alors, entre deux, vous voyez, il y a les sensations, si on veut ajouter, il faudrait, après les sensations et après l'imaginaire, parler de l'estimative. C'est très important de parler d'estimative, parce que ça ferait comprendre la possibilité qu'on a de sentir ce qui convient ou ce qui ne convient pas. Il y a des gens qui sentent. Hein. On dit, ah, vous savez, le magnétisme, quoi. Le pendule, c'est l'estimative. Hein. Et au Moyen-Âge, on parlait des insensatés. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas être directement touchées par les sens et qui sont quelque chose de différent, qui nous donne la convenance, le bien sensible. Le bien sensible est saisi par l'estimative. Je saisis le bien sensible. Il y a des lieux où je suis bien. Il y a des lieux où je suis mal. Et les gens qui sont très sensibles voient tout de suite que si votre lit est mal placé, vous avez beaucoup de peine à dormir. Si votre, pour certains, ça dépend de la sensibilité des gens, ça, n'est-ce pas ? Quand l'intelligence est très développée, pas trop, hein, mais quand l'intelligence est très développée, le lien entre le nous et les sensations sont beaucoup directes. Donc l'estimative joue moins. Ça, c'est sûr. C'est le danger du reste, une culture très poussée. Notre culture coupe l'estimative. Quand on est en face d'une culture plus proche de la forêt tropicale, n'est-ce pas ? Quand on est tout proche de la forêt, alors l'estimative est beaucoup plus forte. On sent les serpents. Moi, je ne sens pas. C'est curieux, ça. On sent les serpents. Ça, tout de suite. Il y a quelque chose là. Vous voyez ? Le bien sensible. Il y a une espèce de on colle avec le milieu dans lequel on est. Ne pas sentir les serpents, ça prouve que vous ne collez pas entièrement dans le milieu dans lequel vous êtes. Il vous manque quelque chose. Alors évidemment, si on colle de trop, on ne décolle jamais. Alors ça, c'est le danger aussi. Alors, décoller jamais, c'est ne pas saisir que le nous, c'est un nous séparé. Donc, décolle. Alors, il faut pouvoir décoller mais de nous séparer et rester lié au milieu dans lequel on est. Toute l'adaptation au milieu, c'est tout simplement éveiller nos sensations pour être dans un milieu qui nous permet de respirer. Alors, il y a les sensations estimatives. C'est très, très curieux, ça, mais c'est très intéressant de voir ces choses-là pour essayer de comprendre justement ce que représente le corps de l'homme. L'homme, il est lié à tout le milieu dans lequel il est. Il est lié à ça. Et en même temps, il a son autonomie. Et son autonomie substantielle. Et il a la possibilité, par le nous, d'aller plus loin. Alors voyez, quand je parle du toucher de l'intelligence, c'est très juste, le toucher de l'intelligence. Et l'intuition de l'intelligence. L'intuition, c'est la vision. Il y a des visionnaires. Ça, c'est l'intuition. Et l'intelligence, elle va toujours entre les deux extrêmes. L'intuition et le toucher. Toucher, le jugement d'existence. Intuition, la forme. Le rapport des formes. Alors, on a des intelligences plus intuitives. Il y a des intelligences qui sont plus auditives. Ah. Les musiciens, ils ont des intelligences auditives. Ils ont besoin d'entendre, pas seulement de voir. Celui qui lit et celui qui écoute la parole de Dieu. Fides exsanditu. Fides exsanditu. C'est l'intelligence liée à lui, liée à la parole. Fides, la foi. C'est une intelligence réceptive. Il y a une forme d'intelligence qui est du côté du goût. Alors celle-là, elle est moins développée ordinairement. Elle est moins développée. Ordinairement, vous avez trois formes d'intelligence. Hein. Intuitive, réaliste. Ça ne s'oppose pas, on peut avoir les mêmes en même temps, heureusement. Mais l'intelligence intuitive, l'intelligence réaliste, une intelligence musicale du rythme. Vous êtes une intelligence musicale. Et c'est intéressant de voir quelle est notre forme d'intelligence. Hein. Alors, une intelligence du côté de l'odorat. N'est-ce pas ? On court derrière quelqu'un. On est attiré par quelqu'un. L'odorat. L'odorat, c'est le point de vue de la finalité. C'est pour ça que dans les pays soi-disant très cultivés, le sens de la finalité disparaît. Parce que l'intelligence, le point de vue de l'odorat, dans notre monde d'aujourd'hui, disparaît. C'est sûr. Dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la vision et l'ouïe. Le toucher va disparaître. On marche plus pieds nus. Le toucher disparaît. Vous avez une semelle d'hommes cultivés qui vous empêche d'avoir le contact avec le réel. Et si vous avez le contact avec le réel, chaud et froid, c'est évident. Vous n'avez qu'à faire un petit glisser devant, sans maquette, hein, uniquement directement sur la terre, et rester tout le temps sur la terre, chaud, froid, hein, sur l'humidité, ça c'est l'intelligence, c'est le point de vue du pied relié à l'intelligence, c'est le toucher. Alors ça disparaît dans notre monde d'aujourd'hui. Dans notre monde d'aujourd'hui, l'intelligence liée au toucher disparaît, l'intelligence liée au goût disparaît, l'intelligence liée à l'odorat disparaît. Il y a trois disparitions, puis il y a plus deux formes. Alors c'est pas étonnant qu'on tombe dans une intelligence idéalisante. Parce qu'il y a deux intelligences idéalisantes, c'est la vision et l'ouïe, coupée du toucher. Et nous devons retrouver ce sens du toucher. Et nous devons retrouver le sens de l'odorat. Et le sens du goût. Oui. Parce que c'est quand même intéressant de retrouver le sens du goût. C'est important. Et l'intelligence est liée au goût. Et l'intelligence est liée à l'odorat. C'est très curieux, ça. Alors, vous voyez, il y a une ascèse mal comprise qui consiste à couper complètement. Quand vous mangez, oh, surtout ne faites aucune attention à ce que vous mangez. Est-ce que c'est vrai? Ne vous arrêtez pas à ce que vous mangez. Mais soyez conscient quand même. Vous avez avalé un... Dans la salade, vous avez avalé un... Ah bon, moi, ça m'est égal. Tout est pour Dieu. Vous croyez que Dieu, c'est l'anonymat, qu'il n'y a plus aucune sensation? Pas du tout. Ses qualités, c'est de Dieu. Alors, si c'est bon, si c'est très bon, Seigneur, je vous l'offre, je n'en prendrai pas beaucoup. Si c'est très mauvais, Seigneur, je vous l'offre, je me nourrirai de ça. C'est merveilleux. C'est que si vous ne l'aviez pas goûté, repas de cela, tout est mis à la même quantité. Une cuillère, c'est ça, la cesse, c'est tout. C'est une cesse très mal comprise. Et on devient idéaliste. Les spirituels, le grand danger des spirituels aujourd'hui, c'est de devenir idéaliste. Ils ne sont plus spirituels. Il leur manque le réalisme, l'intelligence liée aux cinq sensations. Alors faites des exercices merveilleux pendant le repas, vous pouvez faire du vitose admirablement, parce que vous goûtez. Alors finalement, vous n'allez pas faire, c'est pas durer une demi-heure de plus le repas en disant « c'est bon, je manifeste aux voisins ». Non, non, vous faites ça discrètement, mais l'intelligence liée au goût, l'intelligence liée à l'odorat, c'est quand même important ces choses-là. Et ça, on doit le redécouvrir. Hein. Et la vie religieuse nous fait redécouvrir ça. Quand cette vie religieuse est intelligente. Parce que quand elle est ascétique avant d'être intelligente, on dit qu'il faut se couper complètement des cinq sensations, alors on tombe dans l'imaginaire. Le sevrage des sens externes augmente le point de vue imaginaire. Ça, c'est que dû. Le sevrage des sens externes. Alors l'imaginaire, vous comprenez très bien, c'est les oignons d'Égypte. À la place de manger, tout simplement, vous dites « Ah, mes oignons d'Égypte !» Mes petits fours, hein, merveilleux que je mangeais avant, ces desserts insipides, hein, tandis qu'avant, hein, ce vin merveilleux, ce glou glacial, hein, ainsi de suite. Vous voyez, les imaginaires, parce qu'on est coupé des cinq sensations. Alors l'imaginaire grandit. Et on croit que c'est de la cèse. Non, c'est pas de la cèse. C'est un manque de réalisme. La cèse provient de l'amour. Et la 16 a cette lucidité de l'amour. Il y a un très grand danger, ça. Ça nous pend au nez, ça. C'est bien évident. C'est pour ça qu'on fait un peu de philosophie pour rappeler ce réalisme des sensations. Le jugement d'existence. Et Jean Lévi-Strauss a donc cinq modalités. C'est vrai, il a cinq modalités, parce que l'intuition ne peut pas se séparer. Le toucher est présent dans tous les sens, comme dit Aristote. Parce que c'est le sens fondamental. Alors, il est présent dans tous les sens. C'est évident que quand vous goûtez quelque chose, il y a du toucher. Quand vous sentez quelque chose, il y a du toucher. Quand vous voyez quelque chose, il y a du toucher. Mais le toucher est de plus en plus lointain. Et quand vous entendez, il y a du toucher. Mais il est de plus en plus lointain. Il est second, il n'est pas premier. Quand vous touchez, immédiat. Chaud et froid. Donc vous voyez ce point de vue qui me semble très important à bien comprendre. Et c'est pour ça que je maintiens que l'unité de notre monde physique, c'est la lumière. Et que c'est la lumière qui fait le passage de la vision à l'imagination et à l'intelligence. C'est ça qui est très cool. Vision, imagination, intelligence. C'est la lumière. La lumière fait l'unité de notre monde physique. C'est pas étonnant parce que c'est la sensation la plus parfaite. La vision, ça a un full camp. C'est l'horizon. Vous voyez, les modernes disent l'horizon. Très bien, ils remplacent la lumière par l'horizon. Donc, c'est tout à fait le conditionnement. L'horizon, c'est le conditionnement de la lumière. Alors, on prend toute la philosophie moderne à remplacer le principe par le conditionnement. Alors, il suffit de comprendre ce langage. Et on fait la transposition quand on dit l'horizon. L'horizon de la métaphysique. J'aime mieux dire la lumière de la métaphysique. Et qu'est-ce que c'est que l'horizon par rapport à la lumière? C'est le conditionnement de la lumière. C'est très vrai, l'horizon c'est le conditionnement de la lumière. Mais la lumière est qualitative, l'horizon n'est pas qualitatif. L'horizon donne les limites. Ça ne spécifie pas. C'est le conditionnement. Bon. Alors, vous voyez comment on peut essayer de comprendre. Alors, la dernière fois, nous avions... Je continue. La dernière fois, nous avions essayé de comprendre ce point de vue du pourquoi, dans une vision de sagesse, le point de vue du pourquoi de la matière. Alors, c'est un pourquoi très intéressant. Vous voyez, la matière, on peut en parler à des niveaux très différents. Je me souviens à Fribourg de cette thèse d'un japonais sur l'idée de matière. C'est pas ça pour moi, mais c'était très intéressant. L'idée de matière. La matière, vous pouvez en parler à des niveaux très différents. C'est pour ça que le mot matière est si équivoque. C'est vrai, c'est terrible le mot matière. Le mot grec, oulé, égale bois. Premier sens de la matière, c'est le bois. Tout ça, c'est de la matière. C'est de la matière à brûler, le vieux bois. C'est de la matière à sculpter. Ah, c'est plus le vieux bois. Très cru, il y a la matière. Vous avez donc premier sens de la matière, le bois. C'est la matière artistique. La matière capable d'être transformée. L'artiste parle de matière. Alors, le mot artistique de la matière, c'est le même que celui dans le marxisme. C'est ça qui est intéressant à voir. Qu'est-ce que c'est que la matière dans le marxisme? C'est la capacité à être transformée. Or, la capacité de transformer, c'est la matière pour l'artiste. Tout ce qui est capable d'être transformé est matière. Tout ce qui est capable d'être transformé, pour le cuisinier aussi, hein. Tout ce qui est capable d'être transformé, ce qui n'est pas capable d'être transformé n'est pas matière. C'est des qualités. Il y a du piment qui n'est pas de la matière, parce que ça retrouvera tout le temps ce piment. On n'arrivera jamais à le dépasser, tellement la qualité est forte du côté du goût. Tandis qu'au contraire, il y a des matières plastiques qui n'ont aucune odeur, aucune merveilleux point de vue de la quantité. Ça remplit les plats, n'est-ce pas? Donc, c'est le point de vue de la matière. C'est la matière, ça. La matière, capacité d'être transformée. Premier sens de la matière. Deuxième sens de la matière. La matière sensible. Ça dit ça, matière sensible. C'est déjà très différent. C'est la matière liée aux qualités sensibles. Alors celle-là, elle n'est pas transformable. C'est la matière de notre univers qui a les cinq qualités sensibles, qui a les éléments. Vous avez une matière intelligible. Je prends les expressions de saint Thomas et d'Aristote. La matière intelligible, c'est la matière du mathématicien. C'est la matière du scientifique. La matière intelligible, c'est très différent. Et puis vous avez quatrième sens, hein, la matière, la pure matière, la materia pura, la matière première. Ça, c'est le langage du philosophe et même le langage de la philosophie première ou de la philosophie du vivant. La matière pure, la matière première, ce qui permet la génération. La matière première ne peut se comprendre qu'en face de la génération, c'est-à-dire c'est la pure puissance. C'est une puissance au niveau substantiel, une transformation qui est radicale. Une transformation qui est radicale. Ça, c'est la matière au niveau du vivant, puisque le vivant permet la procréation, permet la génération. Et vous voyez donc un être nouveau qui apparaît, mais radicalement autre. C'est plus seulement une transformation, mais c'est quelque chose de nouveau qui apparaît au niveau substantiel. Au niveau des vivants, il y a un nouveau vivant. Et alors au niveau métaphysique, vous direz que cette matière, c'est une pure puissance. Une pure puissance. Et au niveau théologique, théologie naturelle, donc nous y sommes, nous dirons que la matière première, elle est un co-principe. Elle est créée avec la forme. Dieu ne crée pas la matière à l'état pur. On ne peut pas créer la puissance à l'état pur. On l'a dit tout à l'heure. La puissance est toujours quelque chose de second. Donc elle n'existe pas, la matière pure. Elle n'existe que par la forme. Elle n'existe que dans la forme. Mais c'est la matière pure. Donc vous voyez, c'est quand même important. Je prends ces quatre niveaux. On pourrait en prendre encore un nouveau. Hein, parce qu'à l'intérieur de la matière intelligible, vous avez les différentes sciences. Et les niveaux des différentes sciences. La matière intelligible du mathématicien, la matière intelligible du physicien, c'est pas la même. Pas tout à fait la même. C'est fondamentalement la même. C'est le divisible. Hein. Vous pouvez diviser indéfiniment. La matière intelligible, c'est très proche de l'aspect de la matière et de la quantité. Ici, c'est la matière avec une qualité. Et là, c'est la matière avec la quantité. Et ici, c'est la matière qui séparée du reste, et on dira la matière pure. Et seul un regard de philosophe peut atteindre la matière pure. Et quand on a parlé de la désagrégation de l'atome, il y a eu des tas d'articles à ce moment-là en disant « On atteint enfin la matière pure, la matière prima d'Aristote. » Il n'y a pas du tout. C'est tout simplement parce qu'on a creusé un tout petit peu plus dans le point de vue des transformations quantitatives et des transformations qui peuvent se faire. Mais on n'atteint pas. On ne peut pas toucher la matière pure. On ne peut pas. Elle ne peut être compréhensible que par l'intelligence. Et une intelligence philosophique qui seule atteint le point de vue de la matière pure. Donc, on peut se demander pourquoi. Alors, cette matière pure est présente dans toutes les autres, hein, vous comprenez bien. Mais elle est distincte des autres modalités de la matière. souligné, on n'a qu'une connaissance analogique de la matière. Je ne connais jamais la matière directement. Je la connais toujours par la forme. Donc je n'ai qu'une connaissance analogique de la matière. Puisque je la connais par l'intermédiaire de la forme. La matière, c'est la capacité de transformation. Donc, vous pouvez parler de la matière capacité de transformation que quand vous voyez les transformations. Autrement, avant, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où va la résistance d'un matériel. Oui, vous pouvez essayer, il ne croira pas, mais c'est de fait à l'usage. C'est pour ça qu'il y a toujours des imprévus. Toujours. Vous savez, ces images de fer avec des feux d'énorme, avec une chaleur étonnante, tout d'un coup tout éclate. Il y a des choses imprévues, jusqu'où va la transformation. C'est très très difficile, c'est l'acte qui nous fait connaître la matière. Toujours. Donc, la matière n'est connue que d'une manière analogique, toujours par la forme et par l'acte. Alors, la question qui se pose, pourquoi la création de la matière ? Vous voyez comment ça se pose, hein? Pourquoi la création de la matière? Pourquoi la création de la matière pure? Pourquoi Dieu a-t-il voulu, lui qui est un être spirituel au-delà de la matière, pourquoi Dieu a-t-il voulu que les réalités soient liées à la matière? Pour qu'il puisse y avoir des sources, des causes secondes de la transmission de la vie. Pour que, de fait, Dieu puisse communiquer la fécondité. Ça, c'est un très très gros problème et merveilleux du reste. Merveilleux, c'est tout le point de vue de la biologie vu dans la lumière de la sagesse de Dieu. S'il n'y avait pas la matière, il n'y aurait pas communication de la fécondité. La condition sine qua non pour que Dieu puisse communiquer à la créature, je suis dans un jugement de sagesse, hein, puisque Dieu puisse communiquer à la créature qui est un essai participé, puisse communiquer à la créature une vie qui soit source d'une autre vie, il faut un être matériel. Si Dieu a créé des anges, des substances séparées, j'ai le droit de faire cette hypothèse au point de vue philosophique, puisque Aristote parle des substances séparées. Il parle des substances purement intelligibles. Les néoplatoniciens parlent des éons. J'ai parfaitement le droit de faire les hypothèses. Si Dieu a créé des substances séparées, angéliques, selon certaines traditions religieuses, ces substances angéliques ne peuvent pas être source de vie. Aucune fécondité dans les anges. Aucune fécondité dans les anges. Curieux, alors. Vous allez dire, c'est un monde métallique. Non, pas du tout. Ce sont de purs esprits. Ce sont de purs esprits. Et Dieu ne peut pas faire que de purs esprits soient source d'autres esprits. Il n'y a que la vie biologique qui peut être féconde. La fécondité est au niveau de la vie biologique. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ça fait comprendre pourquoi le monde physique. Le monde physique est finalisé par le monde biologique et le monde biologique est finalisé par la transmission de la vie, la survie. Ce que Platon et Aristote et tous les néoplatoniciens ont très bien saisi en disant « Grâce à la génération et à la procréation, il y a un reflet de l'éternité dans notre monde physique, la survie de l'espèce. » Grâce à la procréation, il y a la survie de l'espèce. L'individu disparaît, mais l'espèce continue. C'est merveilleux. Évidemment, c'est une consolation assez particulière, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même merveilleux, si je prends un peu suffisamment de recul. Hein. Je sais qu'en disparaissant, l'espèce humaine continue. Alors je dis amen, amen. C'est merveilleux. Un arbre meurt, l'espèce continue. Un chat meurt, l'espèce continue. C'est essentiel pour le chat de continuer dans l'espèce. Il faut comprendre le pourquoi, la finalité propre de la cause matérielle. Alors, essayons d'expliquer ça, hein, de comprendre qu'il fallait la materia prima, comme dit Aristote, la matière première, pour que la fécondité puisse exister dans les créatures, pour que les créatures puissent être source de vie. La materia prima, pourquoi ? Pour qu'il y ait communication, pour qu'il y ait source, communication de vie. Il faut un contact, il faut une continuité, il faut en même temps une discontinuité. Tout être nouveau est séparé de l'être précédent. Dès le premier instant de la conception, le nouveau, l'être vivant nouveau, est séparé de sa source. Séparé, c'est-à-dire, il est distinct réellement, tout en restant conjoint. Parce que si vous le sépariez à ce moment-là, il ne vivrait plus. Tellement il est fragile, et donc tellement il a besoin d'un milieu vital. Et le milieu vital, c'est le milieu maternel. C'est le milieu vital dans lequel il a absolument besoin de se développer. On essaie de créer des milieux de vie parallèlement. Alors, si on est suffisamment développé, on pourra continuer de vivre dans un milieu artificiel, des couveuses artificielles. Mais il faut être arrivé déjà à un certain développement. On voudrait beaucoup, vous savez, ça c'est l'espérance extraordinaire, hein, pouvoir arriver. Ceux qui sont suffisamment lucides disent on n'arrivera pas. Parce qu'il y a quelque chose dans la matière, le milieu maternel et matériel. Il y a quelque chose dans la matière qui échappe à la connaissance. C'est une potentialité radicale et vous la connaîtrez jamais. La matière est quelque chose qui échappe à toute mensuration. Vous n'arrivez jamais à épuiser ce que c'est que la matière. Il y a Dieu qui connaît la matière et pour qui la matière est lumineuse. Pour nous, la matière est opaque. Parce que c'est une potentialité radicale. Et ça, c'est l'opacité de la matière. La matière a donc une opacité substantielle, radicale, qui fait que la matière échappe à toute connaissance philosophique. Le philosophe le sait. Le savant ne le sait pas, mais il le sent. C'est très curieux. Il sent ça. Il sent bien qu'il y a une indétermination radicale dans notre monde physique, qui fait qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra jamais prévoir. C'est la science des gens qui, par exemple, des tremblements de terre, des volcans, on peut prévoir à peu près, mais il y a des choses qui échappent. Vous savez, ce volcan extraordinaire au Zaïre, hein, ceux qui surveillaient savaient bien qu'il allait y avoir quelque chose. Alors ils surveillaient, et puis ça a échappé sur le côté. Je trouve ça merveilleux. Ça devait normalement passer par le trou, le cratère. Eh bien, pas du tout. Alors, il surveillait le cratère, de l'autre côté, passé. Alors, il dormait pendant qu'il y avait la chose. Heureusement, ils ont pu se sauver. Mais c'est très, très joli, ça. Ça fait comprendre, justement, la vulnérabilité de la matière. Ils n'avaient pas vu qu'il y avait une vulnérabilité de la matière par où, de fait, le crachat passerait. Ce n'était pas classique, parce que normalement le crachat classique passe par le tuyau prévu, n'est-ce pas ? Tandis que là, il passait à côté. C'est extraordinaire, parce qu'il ne connaissait pas la vulnérabilité de la matière jusqu'au bout. S'ils avaient connu la vulnérabilité de la matière jusqu'au bout, ils avaient prévu ça. Il y a une opacité dans la matière. Même la matière, voyez, qu'on utilise, parce que la matière, elle existe dans l'œuvre d'art. La matière, elle est présente dans l'œuvre d'art. Eh bien, il y a toujours quelque chose d'imprévisible. Alors on condamnera les ingénieurs, on condamnera ceux qui ont construit le barrage de Fréjus en disant « ils auraient dû prévoir ». Il y a toujours un imprévu, toujours un imprévisible, tout le temps. On ne pourra jamais être absolument sûr. Tremblement apocalyptique. Oui, les tremblements apocalyptiques, c'est la matéria prima qui est là. Il y a quelque chose d'imprévisible. C'est pour ça que ça maintient la contingence dans notre monde. Ça maintient le hasard. Il y a des choses imprévisibles. C'est terriblement déroutant pour le savant. C'est terriblement déroutant pour le philosophe. Le philosophe est obligé de constater ça. Il y a quelque chose d'imprévisible qui m'échappe dans le monde physique. C'est l'opacité de la matière. Cette opacité de la matière, pourquoi Dieu a-t-il créé ça ? Pas pour le plaisir de faire de l'opacité. Dieu est le Dieu de la lumière. Il n'est pas le Dieu des ténèbres. Il n'est pas le Dieu de l'opacité. Il est le Dieu de la lucidité et de la lumière. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que le monde physique existe ? C'est pour le monde des vivants. Et le monde des vivants implique la fécondité. Multipliez-vous. Alors la fécondité est rendue possible grâce à la matéria prima. Parce que par la matéria prima, il y a un contact qui continue. Il y a une unité fondamentale dans les vivants, grâce à la matéria prima. Et il peut y avoir une séparation substantielle. Le premier moment de la fécondité, il y a un autre être, un autre vivant. Et pourtant, il y a une continuité. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir procréation. Tandis qu'au contraire, si je suis en face d'esprits purs, des anges, les anges ne peuvent pas être source d'un autre ange. Il y aurait des familles angéliques, alors il y aurait la famille de la Gabrielité, la famille de tous les Michel, c'est extraordinaire, les Michael, alors il y aurait les petits Michael, depuis qu'ils sont construits, il y aurait des familles assez nombreuses, hein, qui seraient merveilleuses. Non, non, peut pas, impossible, pas de famille angélique. Chaque ange est un moine. Il est unique dans son espèce. Absolument, chaque ange est un... il est unique dans son espèce, il est parfait dans son espèce, pas besoin de se reproduire, parce qu'il n'y a pas de corruptibilité en eux. C'est très beau qu'il n'y ait pas de corruptibilité, mais alors, ils n'ont pas la fécondité. Pourquoi l'esprit ne peut pas être source de vie pour un autre esprit ? Puisque l'esprit, c'est un vivant plus parfait que le vivant de la vie végétative. Alors on dirait, plus on est vivant, plus on est fécond. Ah non, 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 non. C'est pas vrai. L'esprit, une intelligence substantielle, est plus parfaite que l'homme. Beaucoup plus parfait, du côté de l'intelligence et sa capacité d'aimer. Mais il ne peut pas être source de vie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le contact. Il n'y a pas la continuité substantielle. Chaque individu angélique est une personne unique, créée directement par Dieu. Immédiatement. Pas d'évolution dans le monde angélique. C'est très important, du reste. Parce que ça montre que l'évolution n'est pas quelque chose d'absolu. Le théologien doit tout de suite dire ça. Pas d'évolution possible. Chaque ange est créé immédiatement par Dieu. Et chaque ange ne peut pas être source d'un autre esprit. Parce que son esprit est directement dépendant de Dieu. Comme esprit. Ce n'est que grâce à une vie liée à la matière, donc grâce à la matière vivante, qu'il peut y avoir création, qu'il peut y avoir fécondité. C'est mystérieux ça, mais c'est très important d'y réfléchir, vous voyez. Vous n'arriverez jamais à comprendre parfaitement, parce que la matière reste quelque chose d'opaque. Mais on peut au moins comprendre la signification profonde de ce monde matériel. C'est pour la fécondité. Et la fécondité maintient dans ce monde matériel et corruptible une étincelle d'éternité. Quelque chose qui montre que le vivant comme tel demande d'être éternel. Vous voyez donc, signification, un autre problème. Dans la lumière de la sagesse de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'évolution ? Un problème extrêmement délicat. Il faut faire grande attention. Là, il faut prendre des pincettes. Parce que les savants, les biologistes, sont passionnés, je dis bien, ils sont passionnés pour ce problème de l'évolution. Heureusement. Ils sont passionnés pour ce problème de l'évolution, et donc il faut faire grande attention. Je crois que la première chose qui est à faire, c'est de montrer que le problème de l'évolution est limité à la vie biologique. C'est ce que Rostand disait tout le temps, vous savez bien. Ce coup violent qu'il a fait par rapport à Teilhard. Il a dit « Je ne suis pas d'accord en tant que savant. Les théologiens peuvent être d'accord, ça les regarde. Mais en tant que savant, je ne suis pas d'accord. Parce que pour Teilhard, l'évolution prend tout. Non, l'évolution est au niveau du monde biologique. Et ça, il a raison. C'est donc très important, vous voyez, parce que au niveau métaphysique, il n'y a pas d'évolution. C'est impossible d'évolution au niveau métaphysique. Ça n'a pas de sens. Aucune signification. Donc, laissez le métaphysicien ne pas avoir d'évolution. Respectez que la pensée métaphysique est dans un autre ordre que l'évolution. L'évolution est au niveau de la philosophie du vivant. C'est la philosophie du vivant qui doit se poser la question, vous voyez, de l'évolution. Est-ce qu'il existe une évolution ou pas ? Alors ça, on verra ça au prochain numéro, vous voyez, parce que c'est très important. C'est très important de comprendre s'il existe ou pas d'évolution. Il faut être là-dessus très précis, je crois, dans notre monde d'aujourd'hui, pour ne pas irriter la sensibilité des savants,